La chèvre fait waf, waf. Le chat fait mou. Le banquier est honnête. La vache fait miaou, miaou. Le politicien est sincère. Le sang est vert. Le mort est vivant. Et les Français, j'ai pas trouvé encore. À bientôt, Lucide peut-être. Ça fait rire tout le monde, n'est-ce pas? Au revoir.
Oui, bonjour, je voudrais vous parler d'une petite sœur de France Inter, FIP, présente dans plein de villes, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, etc. FIP sans publicité, FIP qui nous offre une programmation éclectique, vraiment sympa, et ouverte sur tous les styles. Mais surtout, elle annonce tous les événements culturels locaux, sans oublier des annonces de la NPE. Aujourd'hui, FIP est en grève. FIP est menacée par le PDG de Radio France, qui, comme beaucoup, veut limiter la proximité, la spécificité régionale pour une centralisation parisienne. Il ne faut pas censurer et laisser mourir une telle radio. Merci à toute l'équipe d'être vous, d'être là. C'était Eric de Bayon. Salut.
Bonjour, je suis Simone d'Alex, présidente des Amis de la Terre Haute-Savoie. J'annonce que le Conseil d'État a annulé le décret de modification de la loi littorale du lac d'Annecy. Les Amis de la Terre Haute-Savoie se sont particulièrement mobilisés sur cette modification. Nous avons gagné. Nous avons gagné et donc vous pouvez nous rappeler au 06 24 27 45 04. C'est une très belle nouvelle pour le lac d'Annecy. Mobilisation pendant 2 ans des associations locales. Nous sommes fiers, nous avons gagné contre des élus qui voulaient bétonner autour du lac. Donc notre écrin de verdure, notre joyau est protégé. Merci aux citoyens, merci aux riverains du lac et merci à toute la population de France et d'étrangers qui a signé cette pétition, 20 000 signatures en préfecture. Nous avons gagné, le Conseil d'État a donc annulé la modification de la loi littorale du lac d'Annecy. Voilà, bonjour, à bientôt.
Bonjour à tous, ce message concerne toutes les personnes qui ont profité des 30 glorieuses, toutes ces personnes qui ont mis un maximum de fric dans leur poche, tous ceux qui sont propriétaires de maisons, qui demandent à un huissier d'intervenir tout de suite quand il y a un paiement de loyer qui n'a pas été effectué, demander une expulsion, tous ces gens qui ont beaucoup de fric en bourse, tous ces hommes politiques qui se remplissent les poches, tous ces gens-là qui sont au sommet et qui se sentent forts grâce à l'argent, qui détruisent l'être humain parce qu'ils ont le pouvoir du fric, bien tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire, bien vous êtes des beaux salopards.
Bonjour Monsieur Mermet, bonjour à tous les auditeurs. Ayant écouté le très intéressant Monsieur Ziegler, il a bien raison d'affirmer que les Européens n'ont aucun titre pour reprocher aux autres peuples leurs échecs et leurs massacres. Mais ne serait-il pas plus crédible dans ces démonstrations s'il n'avait pas de tels blocages idéologiques? Est-il honnête de reparler de l'influence néfaste des nazis en Amérique du Sud depuis 1945 sans évoquer celle beaucoup plus importante des groupes marxistes révolutionnaires et de leurs exactions? Mais c'est probablement la raison pour laquelle depuis 40 ans que je suis auditeur des radios dites publiques, c'est le seul Suisse que j'ai toujours entendu s'y exprimer. La Suisse serait donc un désert intellectuel, ou n'est-ce pas les journalistes de notre radio nationale qui manquent d'ouverture d'esprit? Merci quand même de votre émission et à très bientôt.
Hier, souvenez-vous, ce peuple dépourvu de conscience politique répétait le discours des puissants. Les assistés, les privilégiés nous prennent en otage. Aujourd'hui, ce peuple dépourvu de conscience de classe, découvre un défilement de plusieurs centaines de milliards engloutis pour sauver le capitalisme et que ce sauvetage sera payé par les peuples. Aujourd'hui donc, les assistés de la finance vont profiter des généreux contribuables pour éponger leurs dettes. Les privilégiés du monde des affaires, valorisant le capital plutôt que le travail, vont pouvoir se renflouer grâce à de l'argent public. À cause de ces preneurs d'otages capitalistes, Le crédit en direction des citoyens sera plus cher et les salariés vont devoir subir récession et austérité salariale. Abusés, assistés, privilégiés, preneurs d'otages hier, la bataille idéologique pour démontrer que nous touchons là, au cœur même du capitalisme, à sa nature, à son caractère est engagée.
Faillite du capitalisme ou au contraire triomphe du capitalisme, du nouvel ordre capitalisme qui est en train de démontrer que les États sont à sa disposition. Un État, c'est la garantie de rien du tout. Ce qui compte, c'est la façon dont l'État est dirigé, c'est-à-dire la politique. Toutes ces années dernières, on a dit et répété, il faut de l'État, il faut plus d'État. Ben là, on en a de l'État. Sauf que c'est un État qui confirme ce formidable triomphe du nouvel ordre capitaliste, dont il va être question aujourd'hui. Comment cet ordre capitaliste justement a assuré son hégémonie? Selon Naomi Klein, avec qui nous allons passer cette heure, Naomi Klein, comme vous voulez, qui est l'auteur, vous le savez, d'un livre fameux qui s'appelle « La stratégie du choc », il s'agit de quelque chose qui est assez proche de l'électrochoc ou de la thérapie de choc. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, ces moments que nous avons vécus ensemble, le tsunami de décembre 2004, le 11 septembre 2001, en France, la tempête de 1999, ou plus loin, le 4 mai 89, Tiananmen, la chute du mur de Berlin en novembre 89. Tous ces moments, à chaque fois, face à ces séismes, ces stupeurs, on a la boussole qui s'affole, les piliers qui semblent s'effondrer. Quelqu'un disait à une antenne un jour, un matin comme ça, on ne sait plus comment on s'appelle. Et bien c'est exactement ça, on ne sait plus comment on s'appelle. On ne sait plus très bien ce que l'on pense. C'est un traumatisme collectif, c'est un effroi. Et c'est un de ces moments à la fois émotionnels et fusionnels qui nous voient perdus comme des enfants cherchant leurs parents dans le chaos, dans la fumée, dans la pénombre. Et c'est le moment précis où les requins nous sautent dessus, les dents en avant, les grands manipulateurs profitent de ces situations pour prendre le contrôle, comme si ces traumatismes étaient constitués une sorte de page blanche, une table rase. C'est l'effet de la table rase. Ce que je vous dis là a été théorisé à travers notamment l'électrochoc, vous vous souvenez, de vol au-dessus d'un nid de coucou, ou bien dans la thérapie de choc. Et bien c'est à partir de ces idées-là que Naomi Klein est partie dans une grande enquête avec toute une équipe, allant d'événement en événement, du coup d'État de Pinochet en 1973, à l'effondrement de l'Union soviétique en 89, enfin en 91 plus précisément, pour voir qu'à chaque fois, ça a été un moyen pour ces prédateurs de prendre le contrôle de la situation. Et évidemment que tout ça n'est pas sans rapport avec ce que nous sommes en train de vivre. Cet auditeur faisait, comme beaucoup, allusion à ces fameux 700 milliards de dollars qui ont été débloqués pour renflouer la finance américaine. Mais au même moment, personne ne remarquait que la Chambre des représentants adoptait pour 2009, pour la défense, un budget de 612 milliards de dollars pour la défense. C'est un budget provisoire, il sera évidemment augmenté, mais cette somme astronomique n'a pas du tout été relevée, tant nous sommes et tant nos amis américains, états-uniens sont traumatisés par ce qui se passe. C'est un exemple parmi d'autres. Vous avez compris, on passe cette heure avec Naomi Klein, la stratégie du choc.
Les années 40 ont été une décennie de découvertes charnières dans le développement de la médecine et de la psychiatrie. Les scientifiques ont développé une nouvelle technique pour soigner les adultes atteints de maladies mentales, l'électrochoc. Ce dernier nettoie le cerveau des patients en leur permettant de prendre un nouveau départ. Sur la page blanche ainsi obtenue, il devient possible d'imprimer une personnalité neuve et saine.
Refaçonner les individus, les mettre en état de choc afin de les soumettre. Un traumatisme collectif, une guerre, un coup d'État, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste plonge tout à chacun dans un état de choc. C'est ainsi qu'après le choc, tel le prisonnier dans la salle d'interrogatoire, nous redevenons des enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent nous protéger.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Renaud Lambert. La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre, Naomi Klein.
Flight number 2, arriving from...
Alors, Naomi Klein, on va dire Naomi Klein, oui
Klein en anglais, mais Klein en français.
Alors, il y a un an, en anglais, vous avez publié un bouquin qui a fait un grand bruit, qui s'appelle « The Shock Doctrine », et qui est traduit en français, qui est sorti en France aux éditions Actes Sud au printemps dernier, « La stratégie du choc ». C'est un gros bouquin de 672 pages qui raconte comment les fanatiques du marché profitent des cataclysmes naturels ou non, pour imposer leurs mesures économiques à des pays dévastés ou des régions dévastées, allant même parfois, comme en Irak, jusqu'à provoquer ce chaos. Et la métaphore qui pourrait illustrer votre démonstration, c'est l'image du théâtre en feu. Il y a un théâtre en feu, c'est la panique, et évidemment le public cherche à sortir du théâtre. Et une voix s'élève et dit « c'est par là ». Et la voix qui crie « c'est par là » pour vous, c'est celle du néolibéralisme que vous appelez le capitalisme de la catastrophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette métaphore ?
Plus ou moins, oui.
Plus ou moins, alors allez-y pour le moins.
It's certainly this is an economic. I'm talking about an economic and political strategy.
Moi, je parle d'une stratégie politique et économique.
And the image of the theater is certainly a graphic one.
Et cette image du théâtre fonctionne très bien, effectivement.
But it's not simply that people run; it's also that they follow.
Mais pour moi, ce qui est important de dire, c'est que les gens ne courent pas pour la sortie, ils suivent.
And the question is, who are they following, and who is taking that leadership role?
Et là, toute la question est de savoir qui suivent-ils et qui leur montre la sortie de ces théâtres en feu.
But the main reason why I focus on these states of shock and the exploitation of the states of shock.
Mais la raison pour laquelle moi je m'intéresse à cet état de choc et la façon dont on les utilise.
Is to challenge the central lie of neoliberalism, which is that it has conquered the world because the people of the world demanded it.
L'idée pour moi, ça a été de remettre en cause le mensonge sur lequel est fondé le néolibéralisme, qui est que les gens l'attendaient, qu'il est naturel.
La plus grande puissance du monde ne s'imaginait pas vivre de telles scènes de désolation et de chaos.
Ces images ont fait le tour du monde depuis hier et sont déjà, tristement, entrées dans l'histoire.
4 jours après le passage de Katrina, les dégâts humains et matériels sont impossibles à évaluer. On parle de milliers de morts.
5 000 en Indonésie et plus de 1 000 dans les îles du sud de la Thaïlande. Il y a aussi 30 000 disparus.
La mort, elle est partout.
1 million de personnes ont dû fuir leur foyer après la catastrophe et beaucoup ont tout perdu.
Panique sur
Il s'agit du plus violent séisme dans le monde depuis 40 ans.
Nous sommes au nord du Sri Lanka, en territoire tamoul, dont la côte est a été balayée hier par le raz-de-marée.
Une dernière convulsion après cette journée d'apocalypse, Manhattan vient de perdre un 3e building. Hier, un peu avant 9h du matin, heure locale, un avion de ligne détourné s'écrase sur un gratte-ciel. 18 minutes plus tard, un deuxième appareil, un Boeing 757, sans doute guidé par les pirates de l'air aux commandes.
A new world order. A new world order. 11 septembre 1973. Santiago du Chili. Palais présidentiel de la Moneda. Un militaire putschiste.
Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now.
Alors, vous prenez toute une série de faits. Je rappelle que vous êtes journaliste et dans beaucoup de choses que vous racontez, il s'agit de reportages. Vous y êtes allé physiquement, comme le reporter que vous êtes. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas être, évidemment. C'était par exemple en 1973, le 11 septembre 1973, à Santiago, au moment où Pinochet a pris le pouvoir au Chili. C'est un peu le point de départ de votre travail, parce que derrière Pinochet, il y a Milton Friedman, votre ami Milton Friedman, qui est mort il y a 2 ans. Et vous prenez ensuite toute une série d'exemples qui n'ont pas l'air, comme ça, a priori, d'avoir une cohérence. Vous parlez de la Nouvelle-Orléans, enfin de Katrina, vous parlez du Sri Lanka, vous parlez de la Pologne, vous parlez de la Russie, vous parlez toute une série d'événements, mais vous leur trouvez quelque chose en commun, c'est qu'à chaque fois, ces catastrophes, ces cataclysmes, ces drames, etc., et le traumatisme vécu par les populations est l'occasion par ce que j'appelle moi les djihadistes du marché, d'imposer leur vision des choses, leur politique, et de forcer les populations, comme vous dites, à les suivre. Alors, je veux bien qu'on commence avec le Chili. Est-ce que c'est le point de départ, le Chili, 73?
Yes, it is recognized by many neoliberal economists as the first laboratory.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes néolibéraux qui reconnaissent le Chili comme un laboratoire pour la mise en œuvre de leur politique.
So I start with Chile because they start with Chile.
Donc moi, je commence avec le Chili parce que eux-mêmes commencent avec le Chili.
Often, when the sort of triumphant history is told, there's a little bit of a sort of fudging of the dates where they'll start with Reagan and Thatcher. And forget about Chile.
Souvent, quand il raconte l'histoire glorieuse du néolibéralisme, eh bien, il trifouille un petit peu les dates. Il commence avec Reagan, Thatcher, et ils oublient le Chili.
But if we look at the analysis and the reporting in the 70s, there was a recognition from Friedman, from Hayek, that this was the first time their ideas were being tested.
Mais si on regarde ce qui était écrit dans les années 70, Friedman et Hayek eux-mêmes reconnaissaient que c'était la première fois que leurs idées, les idées qu'ils promouvaient, étaient testées grandeur nature.
And I quote letters between Hayek and Thatcher talking about the Chilean model and whether it could be transplanted to Britain.
Et d'ailleurs, je cite des lettres entre Hayek et Thatcher, Margaret Thatcher, qui parlent du modèle chilien et de la possibilité de le mettre en œuvre aussi en Grande-Bretagne.
Qu'est-ce qui s'est passé en 73? Pinochet prend le pouvoir et il appelle Friedman, il appelle les gars de l'école de Chicago.
It went back further than that.
En fait, ça remonte un peu plus loin.
The reason why Chile became this laboratory for this extreme, as you say, the market jihadists.
La raison pour laquelle le Chili est devenu ce laboratoire pour ce que vous appelez les djihadistes du marché.
Is because of something that happened actually in the 1950s.
C'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans les années 50.
Which is that the State Department, the United States State Department, was concerned about the emergence of a group of left-wing economists in Santiago.
En fait, à l'époque, le département d'État était très préoccupé par l'arrivée d'un groupe d'économistes de gauche à Santiago même.
And they were worried, of course, about the threat that this posed to U.S. mining interests and other interests in Chile.
Et tout cela posait des problèmes pour les intérêts miniers, les intérêts américains, états-uniens en général, au Chili.
So they began an academic program to bring Chilean students, 100 students in all, to the University of Chicago to study under Milton Friedman and his extremist colleagues.
Donc on a ouvert un programme universitaire par lequel on a fait venir une centaine d'étudiants chiliens pour étudier avec Milton Friedman à Chicago, justement pour contrer l'essor de ces économistes de gauche à Santiago.
So this was the real influence of Friedman in Chile. Yes, Pinochet, and he did meet. Yes, he was an advisor, but that was only a fraction of the influence that the University of Chicago had.
Donc Friedman a bien rencontré Pinochet. Il a eu une influence à ce moment-là. Mais si on veut vraiment voir l'impact de Friedman, il faut remonter aux années 50, et c'est là vraiment que ça commence.
Because what that meant was that even before the coup took place, as soon as Allende was elected in 1970, the plan began for the overthrow and also the post-Allende era.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que même avant le coup d'État, tout était en place pour déclencher ce qui allait être la phase post-Allende.
So the military prepared the armed intervention and the economists prepared the laboratory that would take place afterwards.
Donc les militaires ont préparé l'intervention armée et les économistes ont préparé l'intervention économique.
And these of course were the famous Chicago Boys.
Et ça c'est les Chicago Boys.
Mais il y a une contradiction là-dedans, Naomi, c'est-à-dire que Pinochet, c'est la dictature, c'est l'ordre. On voit ce que c'est, très bien, l'image est très claire. Et Friedman, c'est la liberté. C'est chacun fait ce qu'il veut, c'est l'ouverture, le libre-échange. C'est tout un tas de mots formidables qui plaisaient à l'époque. Qui plaisait à l'époque. On était dans une période libertaire où chacun fait ce qu'il entend. On sort du carcan, on sort de l'État. L'État était très critiqué dans ces années-là. Donc, Friedman, c'est la liberté et Pinochet, c'est la dictature. Je parle d'image. Comment ça s'emboîte ?
Well, this is the reason why we need an alternative history of neoliberalism.
Tout ça, ce que vous expliquez, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une histoire alternative du néolibéralisme.
The hypocrisy of the neoliberal project begins in its first laboratory and continues to this day on Wall Street.
L'hypocrisie du projet néolibéral commence à cette époque et continue aujourd'hui à Wall Street.
So, which is reliant on the big state to bail them out.
Et on voit bien qu'aujourd'hui, le projet néolibéral dépend d'un État fort pour renflouer un petit peu leur caisse si vide.
But the fact is that no democratic government in the world would implement Milton Friedman's extreme ideas. It took a brutal military dictatorship to have the courage, if you will, to use the repression necessary to impose these ideas.
Mais la vérité, c'est qu'aucun gouvernement démocratique à l'époque n'aurait mis en œuvre les mesures prônées par Milton Friedman. Il fallait un gouvernement dictatorial pour l'imposer, y compris par la force.
It's a fundamental hypothesis of this handbook. Et que de telles techniques constituent, par essence, autant de méthodes pour obtenir une régression de la personnalité. On constate un moment parfois extrêmement bref d'apathie, une sorte de choc psychologique ou de paralysie. Les meilleurs spécialistes de l'interrogatoire reconnaissent un tel moment quand il intervient et savent que le sujet est alors nettement plus ouvert aux suggestions et bien plus susceptible de coopérer qu'avant l'administration du choc.
Je suis sûr qu'à tous les coups, avant même qu'on en soit là dans la rencontre, on vous dit, d'accord, on a compris, vous voyez une théorie du complot. Pour vous, il y a une théorie du complot. Comment vous défendez? Parce que vous allez dire non, mais comment vous dites non?
Well, this... I guess I don't see it as a conspiracy because it's an open conspiracy.
Moi, je vois pas ça comme un complot parce que ça se fait à découvert, c'est très public.
My evidence in the book, and as you know, there's a lot of documentation in the book, comes directly from the neoliberal economists who, in their technocratic writings, have deeply explored the connection between their ability to impose these policies and the presence of profound crisis.
Moi, tout ce que je dis s'appuie sur des documents que j'ai trouvés dans les analyses technocratiques des néolibéraux eux-mêmes, qui montrent très bien le lien entre les mesures qu'ils mettent en œuvre et ces moments de crise qu'on rencontre.
So all I'm saying is the politicians know about this strategy, the economists know about this strategy, and it's long past time that the public knew about this strategy.
Et tout ce que je dis, moi, c'est que les politiciens connaissent ces stratégies, les économistes connaissent ces stratégies, et il est grand temps que le grand public les connaisse lui aussi.
And it's been very exciting in recent weeks for me with the book in the United States, because what where I'm really seeing is that the book has been useful to a lot of people in understanding what's happening during this economic crisis.
Et au cours des dernières semaines, j'ai trouvé que ça a été assez excitant pour moi de voir comment mon livre devenait utile pour tout un tas de gens qui cherchaient à comprendre ce qui se passe dans la crise économique que nous traversons.
Because that's the way I think of my work, not as an explanation of everything, but really just as a tool that people can use to be, you know, more engaged as citizens.
Et c'est comme ça que je vois mon travail, pas fournir des explications, mais plutôt une boîte à outils que des gens peuvent utiliser lorsqu'ils veulent s'impliquer, s'engager éventuellement.
And once again, it's not a conspiracy. You know,
encore une fois, c'est pas un complot. Hein.
I'm not sure the extent to which Europeans understand that the think tank industry in the United States is a multi-billion dollar industry.
Je ne sais pas exactement à quel point c'est clair pour les Européens que les think tanks, ces boîtes à idées, représentent une industrie de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis.
They are much more powerful than the universities.
Ils sont beaucoup plus puissants que les universités.
They have unlimited funds given to them by the elites.
Ils ont des fonds illimités qui proviennent directement de l'élite.
And so their job really at the think tanks, the reason why this industry emerged, and Milton Friedman was one of the architects of the think tank industry, was precisely to keep the ideas ready for whatever crisis hit.
Et leur boulot, eux, ça a été exactement ça. C'est une des raisons pour lesquelles Milton Friedman a participé à leur création, c'est d'être là, prêt, avec les bonnes idées, au moment opportun, pour les répandre dans le public.
Then you have the corporate lobbyists, who are a whole other huge industry.
Et donc vous avez après les lobbyistes du patronat, c'est une industrie immense, elle aussi.
So, I mean, I don't think capital is stupid. I don't think they spend billions of dollars on the lobbyist industry and the think tank industry because it's not useful to them. I think they do it because it is useful.
Et je ne pense pas que les capitalistes soient totalement stupides. Je ne pense pas qu'ils dépensent des milliards de dollars dans ce type d'industrie parce que c'est absolument inutile pour eux. Je pense qu'au contraire, s'ils le font, c'est qu'ils ont quelque chose à y gagner.
So what we must say at this point is, you know, what has this project really been about? And I think it's been a class war waged by the rich against the poor, and I think they won.
Et aujourd'hui, donc, la question se pose, quel était réellement l'objectif de ce projet? Mais pour moi, c'est une guerre de classe menée par les riches contre les pauvres, et il faut bien se rendre compte que les riches ont plutôt gagné.
Ladies and gentlemen, we have the 100 drippers in the house tonight, and they just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say.
These United States are confronted with an economic affliction of great proportions.
Ronald Reagan.
The economic ills we suffer have come upon us over several decades.
I think they got something they want to say.
They will not go away in days, weeks, or months. But they will go away.
1 janvier 1980.
They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done. Preserve this last and greatest bastion of freedom. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Is a nation with a mission, and that mission comes from our most basic beliefs. We have no desire to dominate, no ambitions of empire.
Defeat the president.
Oh no, we can't do that, man. No.
Defeat the president.
Shut up, fool.
Our aim is a democratic peace, a peace founded upon the dignity and rights
behind the walls
of every man and woman. advancing this cause with friends and allies at our side, yet we understand our special calling. This great republic will lead the cause of freedom.
Une arme, on a parlé de la propagande, on a évoqué rapidement la propagande, le système de propagande. Il y a aussi le FMI et la Banque mondiale qui ont joué et qui continuent de jouer. Ils ne savent plus très bien quel rôle jouer, mais qui ont été le moyen, le bras armé, enfin, disons, de ces politiques à travers le monde. Le traducteur veut faire sa petite réflexion.
Non, il est simplement intéressant de noter que le FMI et la Banque mondiale sont aujourd'hui présidés par deux socialistes français, donc la France est très fière d'aider dans ce sens au projet néolibéral.
Et je retourne à la traduction. Et monsieur Lamy. Voilà. C'était la note.
Du traducteur. Voilà,
Congratulations.
Félicitations.
I think... What we see with the bank and the IMF is that they are both in some kind of a crisis right now.
Ce qu'on observe avec le FMI et la Banque mondiale, c'est que eux-mêmes sont en crise aussi.
As well as the World Trade Organization.
Tout comme l'Organisation mondiale du commerce.
And the thesis of the book is that this ideological, well, it's not even an ideological campaign. It's an economic project. And it has used ideology to advance.
L'idée de mon livre, c'est que cette campagne politique, mais en fait qui est plus une campagne économique, a utilisé l'idéologie pour avancer, pour progresser.
It began with overt and explicit terror and violence.
Ça a commencé avec une terreur, une violence totalement à découvert.
It continues today through those means in Iraq. It has returned to its bloody roots.
Ça continue exactement de la même façon aujourd'hui en Irak. Ça reprend le même chemin, un chemin tout aussi sanglant.
And you know, you mentioned the film that we made in Argentina, and that's really where I got the thesis for the book because I was in Argentina when the war in Iraq began.
Vous mentionnez le film qu'on a fait en Argentine, The Take, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu l'idée de la thèse de ce livre parce que c'est quand j'étais en Argentine qu'a commencé la guerre en Irak.
And I had the privilege of learning about the way the war in Iraq looked through the eyes of my Latin American friends.
Et ce que j'ai pu voir à ce moment-là, c'est comment on percevait la guerre en Irak chez mes amis latino-américains.
And what they said is they're doing to Iraq what they did to us.
Et ce qu'ils me disaient, c'est ils sont en train de faire à l'Irak ce qu'ils nous ont fait à nous.
But what we had between the bloody birth and the bloody present of this economic project.
Mais ce qui se passe entre la naissance violente et sanglante de ce projet et ses conséquences tout aussi sanglantes et tout aussi violentes aujourd'hui
was a couple of decades when the main tool for imposing these policies was economic crises with the help of the World Bank and the IMF.
Eh bien, la période entre ces deux moments violents, c'est une période où on a utilisé des crises pour faire avancer le projet avec l'aide du FMI, de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du commerce.
Vous dites que la guerre en Irak pour Bush, Cheney et Rumsfeld a été et est l'occasion d'ouvrir des nouveaux marchés pour qui veut, mais notamment pour les États-Unis.
Well, I think that there were two kinds of privatized markets that they saw in Iraq.
Et je pense qu'il y a deux types de marchés à privatiser qui les intéressaient en Irak.
One was this idea that they could use Iraq as a model state to crack open the final frontier for neoliberalism, which is the Arab world, which is very state protected compared to Latin America, Africa, Eastern Europe.
L'idée, c'était d'une part d'enfoncer un coin en Irak dans ce qui était vraiment la dernière frontière dans une région du monde où l'État restait encore très important.
So they wanted to privatize Iraq's industry, Iraq's oil.
Donc ils voulaient privatiser l'industrie, le pétrole.
And they predicted a tsunami effect throughout the Arab world, that once they were able to turn Iraq into a privatized economy, the rest of the neighboring countries would follow, like Saudi Arabia, Iran.
Et en fait, ils s'imaginaient qu'il allait avoir un effet domino et qu'une fois qu'on avait installé ce système en Irak, eh bien, ça allait se propager dans les autres pays de la région.
We see that was a very bad plan. It didn't work out that way.
On voit bien aujourd'hui que le plan n'a pas marché aussi bien qu'ils l'imaginaient.
But they had another plan, which was that the war itself was privatized. So they had an economy in the failed war and the failed occupation. The worse things get in Iraq, the bigger business it is for companies like Halliburton and Blackwater.
Mais l'autre,
so it's post-modern in a way.
L'autre projet, c'était que la guerre elle-même soit privatisée et que même si on s'enfonce dans un bourbier, eh bien, ça profite à des grandes compagnies comme Blackwater, comme Halliburton. Et dans ce sens-là, c'est un peu un conflit post-moderne.
And it's not, and it's post-modern in the sense that it's not just that these companies are making money off the war. It's that Iraq is their laboratory for levels of private privatization that we have never seen in recent history, like privatization of prison interrogation, even privatization of torture. The Green Zone is completely run by Halliburton. It is a Halliburton city-state, like the Vatican, but run by Halliburton.
Et donc, c'est post-moderne, pas uniquement dans le sens où ces compagnies, ces grandes sociétés, Halliburton, Blackwater, génèrent des profits, mais parce qu'on a utilisé l'Irak comme un laboratoire pour penser des niveaux de privatisation qu'on n'avait jamais imaginé avant. Aujourd'hui, on a privatisé la torture des prisonniers, les camps dans lesquels on les parque. La zone verte aujourd'hui est totalement gérée par Halliburton.
And now these companies come home and they look for new markets.
Et aujourd'hui, ces grandes entreprises rentrent aux États-Unis et cherchent de nouveaux marchés.
And the markets they see are natural disasters, border control, even genocide prevention.
Et donc les marchés qu'ils voient, c'est les catastrophes naturelles, contrôle des frontières, la prévention des génocides.
So Iraq has been very useful for this massive homeland security industry, as it's called.
Et donc l'Irak a été très très utile pour ce business de la homeland security, de la sécurité nationale.
Mais Monsieur Obama va leur trouver du boulot en Afghanistan.
Oh, absolutely.
And tout Obama, à fait.
Obama has refused to. He's been asked directly, "Will you call for the removal of Blackwater in Iraq?"
Obama, bien qu'on lui ait demandé formellement, allez-vous demander le retrait de Blackwater d'Irak?
And he has said no, they'll stay, despite the fact that they have been engaged in massacres.
Il a dit non, ils resteront et tout ça malgré le fait qu'on sait très bien aujourd'hui qu'ils ont été impliqués dans tout un tas de massacres.
And of course, he wants a massive escalation in Afghanistan.
Et aussi, il faut rappeler qu'il est en faveur d'un renforcement du nombre de troupes américaines en Afghanistan.
The American left, such as it is very adept at projection. Because this idea of Obama as an anti-war candidate is not based on anything he's saying. He is planning to move the war.
et la gauche américaine se laisse berner assez facilement parce que cette idée que Obama s'oppose à la guerre, on ne repose sur absolument rien. Lui, il cherche simplement à déplacer la guerre.
The war against us all. This war in Iraq isn't the end, it's the beginning of wars to come, all around the world, at the whim of the neocons in the White House. This is the Bush Doctrine come to life. War, war, and more war. War brought to you by the big corporate masters who run the show. This isn't just a war on Iraqis or Afghanis, or even Arabs or Muslims. It is ultimately a war on us all. That's because the billions and billions of dollars that are being spent on this war, the cost of tanks, rocketry, bullets, and yes, even salaries for the 125,000 plus troops, is money that will never be spent on education, on healthcare, on the reconstruction of crumbling public housing, or to train and place the millions of workers who have lost manufacturing jobs in the past 3 years alone. The war in Iraq is, in reality, a war against the nation's workers and the poor, who are getting less and less while the big defense industries are making a killing, literally. What's next? Iran? Syria? North Korea? Venezuela? We've already seen the corporate media play megaphone to the White House to build and promote a war based on lies. And the wave of repression that comes with an increasingly militarized police. This is a war on all of us. And the struggle against war is really a struggle for a better life for the millions of folks who are in need here in this country. The fight against the war is really to fight for your own interests, not the false interests of the defense industries or the corporate media or the White House. Down with the wars for empire. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal.
On est avec Naomi Klein pour son livre « La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre » avec une traduction de Renaud Lambert. Et je suis sûr de ce que pensent certains auditeurs. Et c'est extraordinaire, cette femme qui est là en train de critiquer le capitalisme. Avec... Mais alors, elle ne parle pas du tout du 11 septembre. Votre invitée, elle ne parle pas du tout du 11 septembre. Quand est-ce que vous allez lui poser la question sur le 11 septembre? Quel sens elle donne à ce 11 septembre? Le 11 septembre de New York, pas celui de Santiago du Chili.
Well, that was a pretty classic example of the shock doctrine, of the strategy of shock.
Donc ça, c'est un exemple parfait de la stratégie du choc.
We saw how immediately the Bush administration recognized the usefulness of this crisis.
On a bien vu comment l'administration Bush a tout de suite noté à quel point cette situation pouvait lui être utile.
And they used that shock to pass through many unpopular policies, the Patriot Act, for instance.
Donc ils ont utilisé cet état de choc pour faire passer tout un tas de législations rejetées par le public, comme le Patriot Act.
But more importantly, they declared this endless war on terror everywhere, forever.
Mais de façon plus importante, à mon sens, ça leur a permis de déclarer cette guerre sans fin contre le terrorisme partout et tout le temps.
And they privatized it simultaneously.
Et en plus, au même moment, ils l'ont privatisé.
So really, the war on terror is better understood as a new economy than it is as a war.
Et donc, il faut vraiment comprendre cette guerre contre le terrorisme plutôt comme une nouvelle économie que comme une guerre.
And what we, you know, this is also important in the context of the current economic crisis, because we hear this talk today about how the Bush administration has abandoned its belief in free markets.
Et donc c'est très important pour comprendre aussi la crise aujourd'hui, parce qu'on entend dire que l'administration Bush a abandonné sa foi dans l'économie de marché.
They never believed it. And we see that in the way they treated the war on terror as a wide open faucet for public funds to gush into private hands.
Et en fait, ils n'y ont jamais cru. On voit très bien avec la guerre contre le terrorisme comment ils ont mis en place une espèce de moyen pour des fonds publics de s'engouffrer dans les poches profondes des intérêts privés.
All without open competition, the so-called no-bid contracts.
Tout ça sans la moindre compétition, c'est des contrats où il n'y a qu'une seule personne qui présente une proposition.
Also no risk, because the contracts are what they call cost plus, which means that your costs are covered plus your guaranteed profit.
Donc sans le moindre risque, puisque les contrats qu'on signe sont des contrats qu'on appelle cost plus, donc ça veut dire que les coûts sont couverts et les profits sont assurés.
So no risk capitalism.
Donc c'est du capitalisme sans risque.
And so it's entirely consistent that their final gift to Wall Street would be to nationalize the debts.
Et donc en fait, c'est plutôt logique d'observer que leur dernier apport à Wall Street serait de nationaliser leurs dettes.
Site internet de Lehman Brothers.
Lehman Brothers est un acteur innovant, leader dans le monde de la finance et au service des grandes entreprises, des gouvernements, des institutions ainsi que des individus bénéficiant de hauts revenus, tout cela à travers le monde. La société dispose de sièges à New York, à Londres, à Tokyo et elle travaille dans plus de 40 pays à travers le monde.
Scott Freidheim.
Parlons de la stratégie de cette boîte.
Directeur général adjoint.
Vraiment, il y a quatre piliers à cette stratégie. Tout d'abord, développer des activités diversifiées. Deuxièmement, bien servir nos clients. Troisièmement, être excellent dans la gestion du risque, des coûts, des bilans. Et quatrièmement, et il n'y a rien de plus important que cela, c'est renforcer notre culture. C'est ça notre petit truc à nous. Lehman Brothers a grandi de façon diversifiée en développant ses activités bancaires, actions et gestion aux États-Unis et à l'étranger.
Jeremy Isaac, PDG.
En fait, il suffit de regarder les deux ou trois dernières années pour observer le chemin parcouru. Et cela nous permet de voir où nous allons. Et je pense qu'à ce stade, la vitesse accumulée est telle que nous avançons encore plus vite. Et c'est pour ça, quand je parle du futur, je suis si enthousiaste.
Naomi, vous dites cette idéologie est en crise. D'abord, il a fallu reconnaître que c'était une idéologie. Parce que très longtemps, tout ça a été présenté comme une évidence, comme quelque chose allant de soi, et face à laquelle nous n'avions pas de choix. On nous a dit, il n'y a pas... c'est la fin des idées. Au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, on nous a dit, c'est la fin des idéologies. ne parlons plus d'idéologie. Mmh. Et peu à peu, quand même, grâce au travail de certains, c'est toujours un peu agaçant d'ailleurs que ce soit les Américains qui soient en train de lutter contre le capitalisme, parce que ça, c'était notre boulot, en principe, en Europe. Mais mettons ça de côté. Mais... bon, c'est vous qui le faites maintenant, tant mieux. Mais il a fallu qu'on montre que c'était une idéologie avant de dire qu'elle était en crise.
Mm-hmm. And, you know, this was another tactic of to declare the end of history, the end of debate. And
bien sûr, ça, c'était simplement une autre tactique de déclarer la fin de l'histoire, la fin du débat.
And it really, if you look at the tactics that have advanced neoliberalism over the past 35 years.
Et si on observe par quel biais le néolibéralisme s'est développé au cours des 35 dernières années,
what they all have in common is this determination to avoid debate.
Le point commun de toutes les stratégies mises en œuvre, c'est cette volonté farouche d'éviter le débat.
Now, the use of crisis is a very explicit example of this.
L'utilisation de la crise était un exemple très explicite de ça.
When there's a crisis, there's no time to debate. There's an emergency. We have to
quand
just let
crise,
the people
on n'a pas le temps de débattre. Il y a des urgences. Il faut voilà mettre en œuvre des solutions.
It's a democracy avoidance strategy.
C'est une stratégie d'évitement de la démocratie.
But all of the other slogans that have advanced the ideology have this trait in common. There is no alternative, Thatcher.
Mais tous les autres slogans qui ont été utilisés ont le même ça en commun. Par exemple, il n'y a pas d'alternative de Margaret Thatcher.
The end of history.
La fin de l'histoire.
These are all ways of stopping discussion, not starting it.
Tout ça sont des propositions qui mettent un terme au débat.
C'est ça. Et dans l'urgence, j'entendais ce matin à la radio un représentant de la gauche et un représentant de la droite qui étaient entièrement d'accord face à la crise en disant « c'est pas le moment de polémiquer
mm-hmm. ». Yes, that's what's so useful about crisis. But the idea, you know, some people are claiming that the ideology is dead for good.
Là, c'est ce qui est très utile au moment des crises. Mais vous savez, il y a des gens qui disent que l'idéologie est morte pour de bon.
I think it can be killed.
Je pense qu'on peut la tuer.
But I don't think it's dead.
Mais je ne pense pas qu'elle est morte, qu'elle soit morte. Alors,
because it will come back.
Parce qu'elle va revenir.
And when it will come back, we see very clearly when it will come back.
Et on voit très bien quand elle va revenir.
What the response to Wall Street's crisis and the global banking crisis, and this is true in Europe too, has been to transfer the private crisis to the public sphere.
La réponse à la crise de Wall Street aujourd'hui, aux États-Unis mais ailleurs, a été de transférer cette crise du secteur privé au secteur public.
And what we know is that now, what is now a public crisis will be used to rationalize more cuts to social spending, more tax cuts, more deregulation to stimulate the market. So that's the next shock.
Et on sait très bien aujourd'hui que cette crise devenue aujourd'hui publique sera utilisée pour légitimer la nécessité évidente de réduire les dépenses publiques, de réduire les retraites. Et ça, si vous voulez, c'est le prochain choc à venir.
Oui, enfin, le prochain choc à venir, pour l'instant, on est dans celui-là pour actuellement. Il y a 1,590 000 emplois qui ont été détruits aux États-Unis pour le seul mois de septembre. Donc on est déjà engagé. Là, on voit aujourd'hui les bourses s'effondrer. On voit le recours aux fonds publics pour la socialisation des pertes. Là, cette fois-ci, c'est évident. C'est une pédagogie formidable pour des millions de personnes à travers le monde qui comprennent que ces crises-là sont renflouées par leur propre argent, par leur économie. C'est eux qui payent ça. Mais on est quand même, la situation est quand même assez grave puisqu'on voit que la crise financière, ce qu'on appelle la crise financière, va toucher l'économie réelle et va entraîner d'autres destructions d'emplois, le blocage de la production industrielle, etc. On est quand même dans une situation extrêmement grave.
Absolutely, and indeed, this crisis was all very much already in the real economy. And what happened when Lehman Brothers collapsed was that, as Obama said, the crisis has trickled up from Main Street to Wall Street.
En fait, ce qu'il faut observer, c'est que la crise était déjà dans l'économie, dans l'économie réelle. Et ce qui s'est passé au moment de la faillite de Lehman Brothers, pour reprendre les termes d'Obama, c'est qu'au lieu de dégouliner, de descendre de Wall Street jusqu'à chez nous, pauvres mortels, la crise est remontée de la rue jusqu'à Wall Street.
But what we see is that the... it's unclear where this will stop, because the amount of bad debts is in the tens of trillions of dollars.
Mais on ne voit pas très bien quand ça va pouvoir s'arrêter, parce que ce qu'on appelle la dette pourrie des banques dépasse les dizaines de milliards de...
trillions.
Je ne sais même pas comment on traduit ça. Des milliers de milliards.
And so the $700 billion has almost had no effect, because it doesn't even dent the actual debt.
Et donc le paquet Paulson de 700 milliards de dollars n'a aucun effet, parce que ça ne représente même pas une encoche dans cette dette pourrie qu'il va falloir résorber.
So if we're going to continue this logic, we should just give the banks all our money, you know, that's it.
Et donc si on devait continuer dans cette logique, il faudrait tout simplement donner aux banques tout notre argent, et puis voilà quoi, il faudrait aller jusqu'au bout.
Quelles sont les solutions que vous imaginez, Naomi Klein?
Well, in this moment, I think it's clear the financial sector has failed on free market terms. The market wants these banks to die.
Pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, et pour reprendre uniquement des logiques de marché, le secteur financier a échoué. Le marché veut qu'il meure.
And I think we should accept the market's verdict.
Et je pense...
Stop trying to save them.
Peut-être une fois n'est pas coutume, il faudrait accepter le verdict du marché et arrêter d'essayer de les sauver.
And they need to be nationalized, and the profits need to be in the public hands as well, so that the pressing crises of our times, which are not just the financial crisis, it's the global ecological crisis, which demands resources to address, that we have these resources.
Et je pense que donc ce secteur financier doit être nationalisé, que les profits qu'il génère doivent être entre les mains du public pour répondre à toutes les autres crises que nous rencontrons, qui ne sont pas que des crises financières, mais des crises écologiques, qui vont nécessiter pour leur résolution des fonds qui peuvent très bien venir de là.
Ce qui est drôle, c'est que tout le monde est d'accord avec vous en ce moment. C'est-à-dire que tout le monde dit, on l'avait bien dit.
Well, that's why in a moment like this, you should go further. So I'm also calling for the internationalization of the oil companies.
Et c'est exactement pour ça qu'il faut être encore plus exigeant à ces moments-là. Et donc moi, j'en appelle à l'internationalisation des compagnies pétrolières, ce qui veut dire donc l'appropriation collective à un plan international de ces compagnies pétrolières.
J'ai compris.
So that their massive profits can be used to finance a switch to green energy.
Et donc, on pourrait très bien utiliser les milliards de bénéfices qu'ils produisent pour en passer à une énergie verte, une énergie écologique.
The point is that it's a moment for the left to be on the offensive.
Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moment très opportun pour que la gauche soit à l'offensive pour une fois.
Mais quelle gauche? Elle n'est pas offensive du tout. Je ne sais pas la gauche chez vous au Canada, mais la nôtre, elle est toute molle. Elle dit rien, puisqu'elle a participé à cette révolution conservatrice néolibérale. Elle y a participé. En France, elle a été vous avez eu Thatcher, Reagan, et nous, on a eu François Mitterrand. C'est-à-dire que c'est la gauche. Le libéralisme est entré en France par la gauche, et il est toujours. Il n'y a pas de gauche en France, Naomi Klein.
I'm sorry to hear that.
Je suis désolé de l'apprendre.
I've heard rumors.
J'en avais un petit peu entendu parler, il y avait des rumeurs.
Merci, Naomi Klein. Je rappelle le titre de son livre, La stratégie du choc, la montée du capitalisme du désastre. C'est chez Actes Sud, traduction de Renaud Lambert. Une petite chose en passant sur Naomi Klein, son grand-père a été renvoyé de son poste d'animateur. Il était dessinateur dans le dessin d'animation chez Walt Disney. Et il a été renvoyé pour avoir organisé la première grève de l'histoire des studios Disney. Voilà, autre chose, ce soir aura lieu à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 293 avenue Doménil à Paris, dans le 12e arrondissement, la projection d'un très très beau film que nous aimons particulièrement, à l'équipe de la base, si j'y suis, c'est Bar, centre des autocars. C'est un film du photographe Patrick Zachman, dont nous parlerons dans les prochains numéros de La Basse et J'y suis. C'est ce soir, donc, à la Cité de l'Immigration, en présence de Patrick Zachman soi-même. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission La Basse et J'y suis, où vous pouvez écouter cette émission. Vous pouvez y laisser des messages sur ce site. et ainsi que sur labas.org, la-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et quelques centaines d'autres. Elle a aussi laissé des messages et des observations. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Olivier Riotor, c'est Koye Nguyen et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission, avec des traductions, ça ne vous a pas échappé, d'Antoine Chao aussi. Charlotte Perrier aussi était dans le coup, c'est notre assistante, et Agnès Lebotte, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la BASI. J'y suis au 01 56 40 37 37.